Transistor.
La culture domine tout.
Transistor
Web.
$6 in my hand, up to Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man.
Bienvenue dans la tracklist. Après une pause de quelques années, votre podcast musical préféré fait son grand retour pour une série d'épisodes consacrés au rock new-yorkais. Et pour commencer, quoi de mieux que de parler du groupe de rock new-yorkais le plus mythique de tous les temps, Velvet Underground. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier album du groupe, de Velvet Underground and Nico, qui est aussi surnommé l'album à la banane par les intimes. Alors, pour commencer, pour se plonger dans l'ambiance de l'album, faut d'abord qu'on parle du New York des années 60-70, qui est un New York qui n'a rien à voir avec la ville d'aujourd'hui. Quand vous pensez à New York, vous vous rappelez peut-être vos vacances en famille en 2012, quand vous aviez pris un selfie en haut de l'Empire State, et vous pensez sûrement à une ville touristique, riche, propre, etc. Bon, c'est pas du tout le cas à l'époque du Velvet Underground. Hein. New York est alors une ville crasseuse, sale, dangereuse. New York concentre toute une faune interlope, des junkies, des prostituées, des macs, et j'en passe. Times Square n'est pas le quartier ultra touristique qu'on connaît aujourd'hui, c'est un véritable lupanar à ciel ouvert qui est rempli de cinéma porno. Pour se faire une idée, il faut voir le film Taxi Driver de Scorsese.
All the animals come out at night. Whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Sick, venal. Someday a real rain will come and wash all the scum off the streets.
Évidemment, là c'est exagéré, hein. Le personnage de Travis Bickle, il est complètement parano et il grossit le trait, mais ça vous donne quand même un petit aperçu de la ville. Le Velvet Underground est l'incarnation parfaite de cette ville complètement nécrosée. D'ailleurs, la légende raconte que le groupe aurait tiré son nom d'un bouquin porno ramassé dans un caniveau à Manhattan. Le Velvet est né de la rencontre entre Lou Reed, qui est un étudiant en lettres torturé, et John Cale, un musicien surdoué originaire du Pays de Galles, qui joue de l'alto et de la basse sur l'album. Lou Reed y rencontre John Cale à Pickwick Records. Lou Reed est alors un songwriter pour ce label qui est installé dans un hangar à Long Island City. Et Lou Reed fait du travail à la chaîne, il écrit des dizaines de morceaux calibrés pour la radio. C'est vraiment un travail de titan, hein. Dans une lettre à un ami, il se vante même d'avoir écrit 33 chansons et de les avoir enregistrées en seulement 3 jours. Bon, y a d'autres membres dans le groupe, évidemment. À la guitare, c'est Sterling Morrison et Maureen Tucker à la batterie. Et puis, il y a un membre caché qui est quand même très important, c'est Andy Warhol. Alors, c'est pas lui qui a créé le groupe, mais il joue quand même un rôle crucial dans sa promotion. Andy repère le groupe en décembre 65 et il l'intègre à la Factory en 66. C'est vraiment Andy, en fait, qui introduit le Velvet à l'intelligentsia new-yorkaise. Warhol est crédité producteur de l'album, même si en vérité, il n'a pas du tout participé au processus musical. Hein. Selon Lou Reed, il se contentait de s'asseoir et de regarder le groupe jouer sans trop rien faire. Malgré tout, il a eu une influence folle sur cet album. Hein. C'est lui qui a dessiné la fameuse pochette à la banane. Et d'ailleurs, une folle rumeur circule à l'époque. Hein. En pelant l'autocollant de banane, on trouverait du LSD. Et puis surtout, c'est lui qui a eu l'idée d'intégrer Nico au groupe. Nico est une mannequin allemande qui gravite dans le cercle warholien. Et Warhol décide de la rajouter à ce groupe parce qu'il trouve que le Velvet manque cruellement de sex appeal. D'ailleurs, il aurait souhaité que Nico chante sur tous les morceaux. Nico apporte une touche de douceur à cet album rugueux et en même temps elle chante légèrement faux, ce qui s'intègre parfaitement au caractère dissonant, disharmonique de l'album.
I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Don't know the beauty you are, but if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hand, I see you. I be your mirror. I be your mirror. I be your mirror. I be your mirror.
Faut qu'on parle de Lou Reed. Au moment où il fonde le Velvet, il est étudiant en lettres, ce qui explique la richesse de son écriture. Lou Reed, il est fasciné par les auteurs qui traitent de la marginalité. Hein. Il lit Genet, Burroughs et puis surtout Ginsberg. D'ailleurs, à la mort du poète, il a déclaré que les paroles du rock moderne auraient été inconcevables sans lui. Faut dire que Lou Reed lui-même est marginal. Hein. Soupçonné d'homosexualité par ses parents, il a été envoyé à l'hôpital psychiatrique pendant 8 semaines, où il a suivi un traitement aux électrochocs. Et il gardera toute sa vie des séquelles de cette expérience traumatisante. Et peut-être que cette thérapie explique le son électrique, sursaturé du Velvet Underground, comme si Lou Reed avait lui aussi voulu passer la musique rock sous électrochoc. Lou Reed revient sur ce traumatisme dans le morceau Kill Your Sons, qui n'est pas dans le Velvet Underground and Nico, mais dans un album solo de Lou Reed, Sally Can Dance, qui par ailleurs n'est pas un excellent album non plus. Les électrochocs vous broient, vous transforment en légumes, vous rendent incapable de lire une ligne. Every time you try to read a book, you couldn't get to page 17, chante Lou.
Psychiatrist, I'll give you electroshock. They say they leave you living home with mom and dad instead of mental hospitals. But every time you tried to read a book, you couldn't get to page 17. Cause you forgot where you were, so you couldn't even read. Don't you know they're gonna kill your sons? Don't you know they're gonna they gon' kill your sons until they run away.
got married on the island and her husband takes the train. He's big and he's fat and he doesn't even have a brain. They're gonna kill your son. Don't you know they're gonna kill your sons. So sad I even get a letter. All of the drugs that we took, it really was lots of fun. But when they shoot you up with thorazine or crystal smoke, you choke like a son of a gun. Don't you know they're gonna kill your sons? Don't you know they're gonna kill your sons? Don't you know they're gonna
Il faut mesurer l'originalité de cet album. Le Velvet chante le mal-être, la dépression, l'autodestruction. Une telle noirceur est complètement à contre-courant de l'American Way of Life conformiste, mais cette noirceur entre aussi en opposition avec les utopies hippies. Faut quand même rappeler que l'album paraît en 67, on est alors en plein délire Flower Power, sur la côte ouest des groupes psychés fleurissent, hein, comme Love ou le Grateful Dead, et ces groupes chantent l'amour et la paix universelle. Charles Manson n'a pas enterré l'utopie hippie, un autre monde est encore possible. En 66, le Velvet se produit à LA, dans un club du Sunset Strip, et bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se passe plutôt mal. La noirceur des paroles cadre pas vraiment avec l'idéal hédoniste et apaisé qu'on promeut sur la côte ouest. La chanteuse Cher résume en une formule choc tout le mal que les hippies pensent du groupe.
Ce groupe ne remplacera jamais rien, si ce n'est le suicide.
Les membres du Velvet sont pas du genre à fumer du hash en parlant méditation transcendantale. Non, eux, leur délire, c'est plutôt les drogues dures, le speed, l'héroïne, des trucs costauds en somme. L'addiction aux drogues dures, c'est d'ailleurs une thématique centrale de l'album. I'm Waiting for the Man, donc le morceau que j'ai mis en préambule, il raconte l'histoire d'un petit blanc qui va chercher sa cam Uptown dans le Harlem noir. Et puis il y a le morceau Héroïne, qui est vraiment le sommet de l'album pour moi. Pendant 7 minutes, on suit un camé dans sa prise d'héroïne. Le rythme de la mélodie vient mimer les moments de montée et de redescente. Et ce qui est très troublant avec ce morceau, c'est qu'il n'y a pas de condamnation morale. L'héroïne permet de s'échapper, en fait. Elle permet de s'échapper loin de la grande ville et de ses affres, loin de toute cette pourriture ambiante. Lou Reed demande à l'héroïne de le consumer. Heroin be the death of me.
Don't know. try to nullify my life. 'Cause when the blood begins to flow, when it shoots up the dropper's neck, when I'm closing in on death.
Bon, je vais vous épargner la fin du morceau, le violon sursaturé de John Cale part dans tous les sens. Le morceau finit par une apocalypse stridente, quasi inaudible. Pour la petite histoire, Angus MacLise, donc le premier batteur, il quitte le Velvet en 65 parce qu'il juge que le groupe a viré commercial. Bon, quand on entend des morceaux comme Heroine, on se dit qu'il était quand même un petit peu difficile. D'ailleurs, on pourrait consacrer un épisode entier à ce percussionniste bouddhiste complètement illuminé, mort à Katmandou en 79. C'est un personnage assez énigmatique. Hein. Bon, je vais pas m'apesantir sur le sujet, mais pour la petite histoire, il a signé un manifeste esthétique avec Lou Reed. Je vous propose d'écouter un extrait. La racine universelle de la musique est le sexe. La musique occidentale est aussi violente que le sexe occidental. Notre musique est l'équivalent occidental de la danse cosmique de Shiva. Nous jouons tandis que Babylone prend fond. Et de fait, un autre thème central de l'album, c'est le sexe. Mais de nouveau, on est loin de l'amour libre et solaire des hippies. Hein. Dans ses textes, Lou Reed explore les dimensions les plus troubles de la sexualité. Le sexe tarifé, la domination, la soumission. Les pratiques BDSM sont évoquées de manière frontale. Notamment dans le morceau Venus in Furs, donc un autre chef-d'œuvre de l'album. Ce morceau, donc la Vénus à la fourrure, si on traduit en français, il est tiré de l'ouvrage éponyme de Léopold von Sacher-Masoch, qui est c'est un classique de la littérature érotique. D'ailleurs, le mot sadomasochisme est tiré du nom de cet auteur allemand de la fin du 19e siècle. Dans ce morceau, Venus in Furs, il est question de soumission, de bondage et de bottes en cuir luisantes. Hein. D'ailleurs, ce morceau était souvent joué par le Velvet lors de l'Exploding Plastic Inevitable. Il s'agit d'une série de happenings organisés par Warhol en 66 et en 67. En gros, pour résumer ça brièvement, les danseurs Gérard Malanga et Green Superstar font la danse du fouet sur fond de Velvet, tandis que des flashs lumineux de toutes les couleurs sont projetés sur un écran de cinéma. Comme on peut s'en douter, la critique de l'époque juge ses performances décadentes et perverses. Bon, si vous avez 5 minutes à perdre, je vous conseille vraiment d'aller regarder des extraits de ses performances. Il y a quelque chose de complètement hypnotique dans ces shows hallucinés. On a l'impression d'entrer dans un bad trip vertigineux. Gaspard Noé n'a rien inventé.
Strike dear mistress and cure his heart.
L'enregistrement de The Velvet Underground et Nico est aussi cheap que les films porno qu'on diffuse à Times Square. L'album est enregistré dans un studio délabré de Manhattan en seulement 4 jours et pour la modique somme de 1 500 $. L'album n'a aucun succès à sa sortie, il est beaucoup trop dissonant et avant-gardiste pour les auditeurs de l'époque. C'est vrai qu'on est loin des harmonies vocales des Beach Boys. C'est bien simple, aucune radio de New York n'accepte de diffuser l'album. Bon, c'est vrai que sur le papier, cet album n'est pas très vendeur. On a un leader héroïnomane désespéré et cynique, une mannequin qui chante plus souvent faux que juste, une batteuse limitée techniquement, un altiste enragé, etc. Mais c'est justement cette imperfection, ce côté rugueux, âpre, qui fait tout le charme du Velvet. Cet album érige la marginalité en art, c'est la revanche des timbrés quelque part. Philippe Manœuvre résume ça parfaitement dans sa discographie idéale du rock.
Le premier Velvet était tout simplement l'album des voyous. Perturbés, malades mentaux, camés, dingues, décalés, écrivains, créateurs, un petit juif junkie, un musicien classique gallois, un guitariste texan, une batteuse aux masses qui insistait pour jouer debout, et un top modèle hongrois. Le tout produit par un exilé tchèque, incompétent, mais de grande fortune.
L'album n'a aucun succès à sa sortie, en revanche, il aura une influence folle sur l'histoire du rock et donc sur des générations de musiciens. On cite souvent cette formule de Brian Eno.
Le premier disque du Velvet Underground s'est vendu à 30 000 exemplaires au cours des 5 premières années. Je pense que tous ceux qui ont acheté l'un de ces 30 000 exemplaires ont commencé un groupe.
Bon, en réalité, on n'est pas vraiment sûr que Brian Eno ait dit ça. Ça relève davantage de la légende, mais cette formule, elle a quand même le mérite de souligner l'influence dingue du groupe sur l'histoire du rock. Sans le Velvet, il n'y aurait jamais eu le mouvement punk. C'est ce groupe qui a été le premier à proposer une musique subversive, dissonante, agressive. D'ailleurs, Sid Vicious, des Sex Pistols, tire son nom d'un morceau de Lou Reed, Vicious. Il y a une paternité évidente de Lou Reed sur le mouvement punk. Sans le Velvet, il n'y aurait jamais eu le punk, mais il n'y aurait pas eu le post-punk non plus, évidemment. Iggy Pop et Bowie seraient sûrement de gentils chanteurs de variétoche. Et puis, sans le Velvet, il n'y aurait jamais eu des groupes comme Television, The Strokes, Interpol. Tout le rock urbain new-yorkais prend sa source dans le caniveau saumâtre du Velvet Underground.
They were wild like the USA, a mystery band in a New York way. Rock and roll, but not like the rest. And to me, America at its best. How in the world were they making that sound? Velvet Underground, a spooky tone on a Fender bass. Played less notes and left more space. Stayed kinda still, looked kinda shy. Kinda far away, kinda dignified. How in the world were they making that sound? Velvet Underground, well you could look at that band. All that sound was coming from, with just four people there. Twangy sounds of the cheapest types, sounds as stark as black and white stripes. Bold and brash, sharp and rude, like the heat's turned off and you're low on food. How in the world are they making that sound? Velvet Underground, like this. Tuck and Sally inside, she's cooking for the down five. She's staring at Miss Rayon, she's busy licking up her pusher's hand. I'm searching for my mainline. I said I could hit sideways. I said I could hit sideways. She does it just like Sister A said. Alright. Cheapest kind, like guitar sale $29.99. Bold and brash, stock and still, like the heat's turned off and you can't pay the bill. How in the world are they making that sound? Velvet on the ground, both guitars got the fuzz tone on, drummer standing upright pounding along. How
start to unwind. Close encounter of the third of its kind. On the bandstand moving, everybody moving. How in the world are they making that sound? Velvet Underground.
La perception du Velvet, elle a bien changé en un demi-siècle. Ce groupe jadis voué aux gémonies par les tenants du bon goût est désormais institutionnalisé. On compte plus les livres écrits sur le groupe, les reportages, les événements, même les thèses. En 2016, une étape de plus a été franchie dans la patrimonialisation du groupe. Une expo sur le Velvet a été organisée à la prestigieuse Philharmonie de Paris. Cette patrimonialisation s'est accompagnée d'une récupération marchande du groupe. La banane warholienne figure sur un nombre incalculable de t-shirts, de goodies et d'autres produits du genre. Quelque part, on peut dire que New York et le Velvet ont suivi la même trajectoire. La violence qu'ils contenaient s'est érodée, la marginalité a cédé sa place au succès mondial. Bon, je pense pas qu'on puisse vraiment regretter le New York des années 60. Hein. Selon les témoignages, c'était quand même une ville particulièrement violente, sale, suffocante. Malgré tout, on peut parfois être pris par une nostalgie irrationnelle, peut-être idiote, pour cette ville de dingue, cet assemblage improbable de clochards célestes et d'intello avant-gardistes. Si vous ressentez la même chose, si au cours d'une insomnie, l'envie vous prend de vous promener du côté obscur de la ville, là où Camé et Mac déambulent sous la lumière blafarde des nightclubs, faites comme moi, laissez-vous bercer par la voix grave de Lou Reed.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doot 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 doot. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot 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 doot. Do
Le premier Velvet était tout simplement l'album des voyous, perturbés, malades mentaux, camés, dingues, décalés, écrivains, créateurs. Un petit juif junkie, un musicien classique gallois, un guitariste texan, une batteuse au mas qui insistait pour jouer debout.
Vas-y, attends.
Je fais.
Vas-y, refais.
Le premier Velvet était...
Merde, attends, viens, excuse-moi. Vas-y, c'est bon.